Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orech Yamim Tovim Bishanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur le Sidour de Tfila. Nous sommes dans les Pesukeh des Imra, au Alléluia. Donc nous avons dit qu'il y a cinq psaumes qui sont la louange par excellence, le Alléluia, qui correspondent aux cinq niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Ahida, et que, au fur et à mesure de l'avancement dans les psaumes, la louange s'amplifie, elle gronde, elle prend de l'ampleur, de l'intensité. Nous sommes donc au psaume 147. Alléluia, Kitov Zamera Eloheinu. Louez le Seigneur, car il est bon. Kitov, Zamera, il est bon de le louer, de chanter sa gloire. Kinaim Mavat Eila, car il est agréable. À lui revient de louer, à lui, il est agréable, elles lui correspondent, les louanges lui correspondent. Donc nous avons dit le mot Alléluia, c'est l'appel. Celui qui lance le chant, il enflamme son public pour qu'eux aussi reprennent derrière lui la louange. Alléluia, avec un point d'exclamation, et le public reprend et répète, Alléluia. Après que le Nefesh se soit élevé au premier psaume, le psalmiste reçoit en retour une énergie nouvelle. C'est ce que nous appelons les Maïm Nogvim, le fait d'aller du bas vers le haut va susciter un retour, une énergie nouvelle, renouvelée, qui va venir s'installer et être octroyée au psalmiste. Donc à ce niveau-là, il va entonner un chant qui est plus puissant que le précédent. C'est le retour des énergies nouvelles. C'est Maïm Dochrim. C'est ce que les eaux féminines qui suscitent le retour des eaux masculines. Le travail du bas vers le haut suscite un retour des énergies du haut vers le bas. Dans un autre langage, c'est le réveil du bas, et Aruta Deltata, qui suscite Itaruta Delela. Donc, quand les auteurs, Akadosh Baruch Hu entend, aperçoit celui qui essaye de s'élever vers lui, alors il va lui donner les énergies renouvelées, amplifiées, pour qu'il poursuive son ascension. C'est le sens. Il est bon. Le Tov, le mot Tov, convient au Yesod. Qualifie le Yesod, c'est le conduit central par lequel nous recevons les encouragements et les énergies renouvelées, qui vient lui-même du Da'at, de la connaissance et au niveau du cervelet. Moshe est qualifié de Tov. Va tere oto ki tovu, sa mère a vu qu'il était Tov, par excellence. Et la notion de Tov, c'est la notion de la connaissance. C'est il est dit que lorsque Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. C'est ce rayonnement de l'intelligence, de la connaissance, qui apporte la beracha dans les demeures. Il est le berger fidèle, Moshe Rabbeinu. Raya me'emna, le berger fidèle, celui qui mène son troupeau à bon port. Quand le Tov donne au psalmiste son ruach, alors il devient naïm, il devient agréable. Donc il est important d'élever une louange agréable. Agréable dans la manière de la dire et dans la forme qu'elle prend. C'est le chant, elle doit être accompagnée d'un chant harmonieux, agréable. Bonne Yerushalayim Adonai. Nitche Yisrael Echanes. Akadosh Baruch Hu construit Jérusalem. Et il rassemblera les exilés. Il revient ici à l'essentiel de son cantique, qui est à savoir la délivrance finale, la reconstruction de Jérusalem et le rassemblement de tous les ceux qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Et à ce moment-là, que se passera-t-il ? Arophé l'Ishbour élève, il va guérir les cœurs brisés, ceux qui ont le cœur brisé. Umhabesh la atsevotam, et il pense, il met des pansements sur les blessures. Il s'agit de la résurrection des morts, qui ressortiront de leur tombe avec de nombreux défauts physiques. Les corps seront imparfaits. De la même manière qu'on est mort, on va réapparaître. Alors les gens, quand ils sont morts de maladies, de toutes sortes de souffrances, ils étaient diminués à la fin de la vie. Le corps s'affaiblit, à la fin de la vie, on est diminué. Donc tous ces manques, toutes ces imperfections disparaîtront, ils seront guéris. Il détermine le nombre des étoiles, monnaie mise par la kochavim. Il compte chaque étoile. C'est pas dans le sens seulement de les dénombrer, mais de les placer à chacune sa fonction, chacune son illumination, chacune son rayonnement. Les choulam shemot ikra. À chacune, il octroie un nom. Le nom symbolise, renvoie, fait référence à la fonction de chacun. C'est pour cela, d'ailleurs, que Am Israël est comparé aux étoiles. Les étoiles, parce que chacun d'entre eux possède une neshama très haute, qui est une étoile qui doit rayonner. Et à chacun revient une fonction particulière, un rayonnement spécifique. Chacun, de par la qualité de son âme et la qualité de sa personnalité, qui est définie par l'âme, doit rayonner de manière spécifique. C'est le sens de compter. Et on retrouve cela au début de Bamidbar, quand dans le livre des Nombres, quand à nouveau le peuple d'Israël sera dénombré à nouveau. Et à chaque fois qu'on fait un compte, on les compte, ça signifie que chacun va endosser une fonction et doit remplir son rôle et rayonner sur les autres. Parce que ce que un doit faire, l'autre ne pourra pas le faire. Chacun d'eux ne sera abandonné, oublié en chemin. C'est-à-dire que aucun des exilés ne pourra être perdu. Tous les exilés, toutes ces énergies-là seront rassemblées. Toutes les énergies dispersées au cours des années d'exil seront rassemblées. C'est le sens. Monei mispa la kochavim lechulam shemot ikra. Gadol adonenu verav koah. Grand est notre maître et puissant, tout puissant sa force. Litvunato en mispa. Sa connaissance, sa sagesse, son discernement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la grandeur de Dieu, c'est ici, il est souligné la conduite, comment HaKadosh Baruch Hu conduit son monde et amène, malgré tout, bien que ça ne semble pas être le cas, mais c'est comme ça que ça se passe, et il amène malgré tout son monde, avec tout ce qui le compose, toutes les multitudes d'énergie qui sont éparses là, ça et là, il les amène toutes à réparation. Mais Oded Anavim Adonai, HaKadosh Baruch Hu encourage, soutient ceux qui sont humbles. Mashpil Rechaim Adaharet, et il rabaisse jusqu'à terre les Rechaim, les méchants. Les exilés, ils sont éparpillés aux quatre coins de la terre. Chacun, comme nous l'avons dit, est porteur d'énergie exceptionnelle, de génie, d'intelligence, de possibilités immenses. Parfois, ils sont éloignés de la Torah. Parfois, ils sont perdus. Alors, tout ça sera réparé, récupéré. Parfois, ces énergies-là sont emprisonnées par les clipotes, par la Touma. Les gens sont inconscients de la vraie réalité. Alors ils sont au plus bas d'un point de vue spirituel. Akadosh Baruch Hu les relèvera pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets de l'exaltation. Mais Oded Anavim, Hachem, de qui s'agit-il quand nous disons les humbles, les modestes? Ce sont les énergies saintes qui sont emprisonnées, enfermées, qui sont étouffées par les clipotes, par les puissants de ce monde, qui sont les clipotes. Donc ceux-là seront rétablis. Ils vont être sortis de leur enfermement. Et ils atteindront les plus grands sommets de l'exaltation. Et les méchants disparaîtront. Quand la lumière se fait, alors l'obscurité est disparue. Enou l'Adonai Betoda. Élevez, entonnez un chant, une action de grâce, de remerciement, de Toda. Zamerou l'Eloenu Bechilor. Chantez notre Dieu avec la harpe. À la fin des temps, tous les sacrifices seront annulés comme nous l'avons dit. Ne restera le seul qui se perpétuera, sera l'offrande de gratitude. Le korban toda, qui nécessite, comme nous l'avons dit au psaume, mizmor les toda, il est indispensable de l'offrir avec une immense joie et une immense harmonie. Le contentement, être heureux de vivre, c'est la plus grande, c'est ça le sens. Celui qui a eu un miracle, alors il doit apporter, il est porté par le sentiment de remerciement total. Donc il exprime, le korban, cette offrande exprime toute sa joie de vivre l'instant présent, parce qu'il va gratifier à Kadosh Baruch Hu et être reconnaissant de tout ce qu'il lui fait, de ce miracle qu'il a eu. De par cette exaltation, la harpe se mettra d'elle-même à faire de la musique à la gloire de Kadosh Baruch Hu, comme celle qui était suspendu au-dessus du lit de David, et d'elle-même, à l'heure de minuit, quand le vent soufflait, le vent du nord se mettait à souffler, de suite, elle se mettait à faire sa musique. C'est le vent du nord, le nord, Ruach Tsefonit, c'est Tsafon, c'est le vent de la grigueur. Mitzafon Tipatahara. Et ce vent-là était adouci, était associé, donc il y a ici une harmonisation entre le Kinor David qui symbolise la miséricorde, la bonté, et le vent du Nord qui symbolise les rigueurs, qui sont les deux s'associent à la gloire de Dieu. Embrassé Shamaim Be'avim, lui qui couvre le ciel des nuages. Les nuages symbolisent le temps où la face est cachée. Amechin la aretz mata. Et malgré tout, ce temps-là où les nuages cachent le ciel, le temps de Esther Panim, il semble que c'est négatif. Mais ce nuage-là prépare la pluie. Amechin la aretz mata. Amatsmiach harim hatzir. Et il fait pousser les herbes, la végétation sur les montagnes. Alors ici on parle à l'époque, donc comme nous l'avons dit, à l'époque où l'Esther Panim, la face, comme si que la face de Dieu, elle est cachée par le voile des nuages. Alors le flot de bénédiction n'est pas a priori apparent, mais sache qu'il continue d'exister. Les flux ne peuvent s'interrompre, parce que sinon alors le monde serait détruit. Haz v'shalom. Pour que la délivrance arrive, il est nécessaire que toutes les âmes et leurs étincelles dispersées aux quatre coins, aux quatre coins du monde, dans les quatre composants de la nature, que sont le végétal, le minéral, le végétal, l'animal et les hommes, qui sont eux-mêmes parfois perdus, comme nous l'avons dit, soient récupérés. Alors c'est ce qu'il dit, pourquoi il pleut? Alors Gadol nous dit, la Gemara, Gadol yom akshamim, yoter mi yom triat hametim. Le plus grand est le jour de pluie que le jour de la résurrection des morts. Parce que c'est dans le même sens. C'est-à-dire que grâce à la pluie, il y a des âmes, il y a le concept du Gilgoul. Le concept du Gilgul est que parfois les âmes sont obligées de revenir sur terre, mais parfois elles sont rejetées et elles sont perdues, elles sont enfouies dans les éléments de la nature. Alors il faut arriver à les en sortir, à les libérer. Alors imaginez que dans la terre, dans le sable, dans la terre, il y a des neshamot. Dans les pierres, il peut y avoir des neshamot. Comment les sortir de là? Alors quand il pleut, la végétation va pousser. Donc la végétation va tirer ses nutriments, ses énergies des éléments, des minéraux. Donc elle tire cette âme. L'âme, elle est passée du minéral au végétal. Après la bête, l'homme peut manger directement le végétal, si c'est un fruit ou un légume. Ou bien c'est la bête qu'il mange, et après l'homme, il mange la bête. Donc c'est le processus de récupération des âmes. Et quand on mange à la table, si on sait manger avec Kavana, la table est le lieu de la sainteté, le lieu de la Kdusha, la table est comparée au Mizbeah. Donc de la même manière que le Korban, lui aussi procède de cette récupération qui se fait en quatre temps, il y a dans le Korban la bête, le minéral et le végétal. On met du sel et on met des menahot, on accompagne ça d'offrandes, de libations. Donc il y a l'homme qui participe, qui est l'intention, qui fait son, si c'est un hatat, ben, il fait le vidou, etc. Donc il y a la kavana de l'homme, la participation d'un volontaire de l'homme. Donc il y a les quatre éléments qui se récupèrent. Et tout ça va monter en kdusha, réarnihouar l'Hachem. Il en va de même pour la table quand on mange. Donc grâce à cela, alors on récupère. Donc même si il nous semble que le monde, il y a un voile épais de nuages qui entoure la face et que on ne voit pas la présence de Dieu sur terre, mais le monde de toute façon est mené à réparation. C'est le sens. Amchase shamayim ba'avim, amechin ha'aretz matar, amatzmi'a harim hatzir. Il fait pousser même sur les montagnes, c'est-à-dire que même s'il y a une neshama, une étincelle de sainteté perdue dans une montagne, dans un lieu où rares sont ceux qui s'y aventurent, malgré tout, cette âme-là sera récupérée. Noten libe malahma, livne oren vacherikraou. Ils donnent leur pain, enfin leur pitance aux bêtes et aux petits corbeaux quand ils le réclament, quand ils appellent. Alors les bêtes et les corbeaux font référence aux kohot, aux forces négatives, aux forces de nuisance, le klipot. Et alors, Akadosh Baruch Hu les maintient même au moment où ils doivent disparaître. Ils disparaissent pas complètement parce qu'on a besoin d'eux. Donc, ils seront maintenus sous perfusion. Il leur donne le strict minimum pour qu'elles soient existantes. Parce que sinon, il n'y a plus rien à faire. S'il n'y a pas la tentation, les tserara, les kohotara, alors l'homme, il n'a plus rien à faire sur terre. Donc, elles sont maintenues. Mais là, Behesed Elyon, elles sont maintenues à un niveau relativement faible. Elles sont comme sous perfusion. Comme était le serpent avant que l'homme ne faute. Avant que l'homme ne faute, la Kdusha avait une structure immense et le Kohot Atum'a, les forces négatives, étaient dans un système miniature, tout petit. Et quand l'homme a fauté, alors il a rétabli, il a donné une structure à ce miniature-là comme le Kohot HaKdusha. Et la Kdusha, elle, s'est rabaissée, s'est réduite. Alors, le mot Orev fait allusion au mélange. Orev, le corbeau, il est de la même racine que Arev. Alors ça peut être le mélange et le goût agréable. Dans toute chose que l'on goûte, il y a un goût agréable. Le goût agréable, il ne faut pas qu'on soit tiré vers le goût agréable. Il faut en jouir, évidemment, mais en le canalisant vers la Kdusha. Le bon, dans ce monde, le bon et le mauvais sont mélangés. Ils peuvent avoir le même goût. Alors il faut arriver à distinguer le bon du mauvais. Car les clipotes n'ont pas de vie propre. Elles ne tirent leurs énergies que de la Kdusha. Donc il ne faut pas les renforcer. L'obigvora tassor serpas. L'obéchoqué aïch irtse. Il ne prend pas alors, la puissance du l'obigvorat assor sirpa. C'est pas la vigueur du cheval, du coursier, qui donne le plaisir à l'homme et la puissance. Et non plus, il ne donne pas l'agilité à l'homme par ses jambes. Sur les champs de bataille, les armées se préparent à l'affrontement. Une partie de cette armée est faite de cavalerie et de fantassins. Mais la victoire ne dépend pas d'eux. La victoire est ailleurs. Comme nous avons dit que la force de la Touma se réduit par la Kavana. C'est ce sens. Il y a marqué « Kitetse la milhama al-oivecha » Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, et le pasouk continue, dit Hachem, te le donnera entre tes mains. Te le donnera, c'est au singulier. En fait, les ennemis peuvent être des milliers, une multitude. Mais en fait, s'il y a un seul qu'il faut battre, c'est la force du mal qui leur donne là, tout cela, la puissance. Kadosh Baruch Hu désire ceux qui le craignent et ceux qui croient en lui, qui ont foi en sa bonté. La victoire dépend de ceux qui le servent, qui sont ceux-là, ils sont dans les tentes de Yaakov. Comme il est dit, nos pieds se tenaient fortement au champ de bataille parce qu'il y avait des gens qui étaient installés dans tes portes, Jérusalem, ceux qui sont dans le Ohel, dans la tente de la Torah. Comme il est dit, Ish Yaakov, Ishtam, Yoshev Oalim. Yaakov est un homme intègre, parfait, qui est assis dans la tente. Quelle tente s'agit-il? Là où il est marqué assis, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah. La Torah est étudiée avec force, labeur, puissance, investissement, désintéressement total, rien que pour l'amour de la Torah. Et pour faire, comme nous l'avons dit, une place, une présence, un lieu à Akadosh Baruch Hu en son monde, afin que ce soit lui qui le dirige. Donc, c'est ça le Chesed. Torah Chesed à l'échono. La Torah, c'est le Chesed qui donne les énergies de vie, qui traduisent la volonté du Créateur qui est de donner la vie. Shabbihi Yerushalem et Adonai. Alléluia, célèbre toi Jérusalem, l'Éternel, et glorifie ton Dieu, toi Tzion. Alors ici, il y a marqué deux choses, il y a marqué Jérusalem et Tzion. Ça veut dire quoi Jérusalem? Qu'est-ce que ça veut dire Tzion? Alors Jérusalem, c'est la Jérusalem du haut, dans les Olamot Aïlonim, dans les cieux. Elle se construit au fur et à mesure de nos actions. Plus nous faisons des actions réparatrices, Torah au mitzvot, pas seulement Torah au mitzvot, mais il faut les faire bien, avec intention, avec la volonté de faire, comme nous l'avons dit, le Retzon Hashem, avec la Kavana, l'intention, avec la concentration, avec les émotions, avec la parole, je dis, j'accomplis la Torah, et l'action elle-même. Donc quand on fait parfaitement cela, alors on construit au fur et à mesure les Yerushalayim du haut. Alors il y a la réparation va faire que la royauté va s'établir dans le monde. Yerushalayim, c'est la capitale, là où le malchut règne, se dévoile. Alors il y a deux niveaux dans l'expression de la royauté. D'une part, Jérusalem qui est la part de Léa. Donc Yaakov, il est marié avec deux femmes. Il est marié avec Rachel et Léa. Léa est à un niveau élevé, elle est voilée, elle est cachée. Elle se cache dans sa demeure, elle sort pas. Et Rachel est dehors. Donc il y a la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. C'est Rachel et Léa. Le prophète dit, « Kim Tzion, tetzé Torah. » De Sion sort la Torah. « Dvar Hashem Yerushalayim. » La parole de l'Éternel sort de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'effort. Alors, on va essayer d'étudier la Torah. On m'a posé une question de halakha difficile. Donc, il faut s'adonner à l'étude pour arriver à trancher cette halakha-là. Alors, on cherche, on travaille, et on arrive à une conclusion. Ça peut être permis, interdit, et nuancé. Mais comment sait-on qu'on a dit une chose juste? Alors on a besoin que ça soit validé. Donc le travail, le labeur que le Chacham va exercer, c'est, ça correspond à Tzion, c'est dans le monde ici-bas. La Halakha dépend de l'investissement et de la compréhension des hommes. Maintenant, il faut que cela soit confirmé par la volonté céleste, que ça soit juste, qu'on ne dise pas « Chas v'shalom in Halakha » fausse, qu'on se trompe pas. Alors, c'est ce qui est marqué. « Ki metzion tetzetora » De Tzion sort la Torah. La Halakha fixée par les Chachamim. Mais ils peuvent se tromper. Alors, il dit « V'udvar Hashem Yerushalayim » La parole prophétique sort de Jérusalem du haut. C'est la Jérusalem d'en bas qui signe à Tzion, ça veut dire montrer, c'est une flèche. C'est la Jérusalem du bas, signale où se trouve la Jérusalem du haut. C'est appelé Tzion, c'est la Jérusalem d'en bas qui signale le lieu où se trouve celle du haut. D'où sort la parole de Dieu, c'est la prophétie. Par leur dévouement moral total pour l'étude et dans le seul but de clarifier l'halakha, les maîtres de Tzion dévoient la parole de Dieu comme s'ils avaient eu l'esprit prophétique. Alors c'est ça ce qui a marqué. À ce propos, il est dit, Chacham a dit une avis. Le Chacham, il est préférable au prophète. Le mot Tzion signifie un signe, une marque, une désignation, désigner un lieu. C'est comme ça qu'on appelle aussi la tombe. Une tombe, on l'appelle Tzion. Pourquoi ? Parce qu'il fallait marquer la tombe de sorte que les Kohanim ne sachent où ne pas marcher, ne pas s'approcher. Jérémie, il dit, « Aie soin, atzivilecha tzionim, aie soin de dresser des signaux, érige des poteaux indicateurs. » Cela concerne la Jérusalem d'en bas. Tzion indique le lieu où se trouve celle dans l'eau. Quand celle-ci descendra entièrement reconstruite, les deux ne se confondront. L'une sera l'intériorité, et l'autre sera l'extériorité. L'autre, c'est la splendeur extérieure. Alors, dans Shmuel, il est dit que David HaMelech, il a pris la fuite, et parce que Shaul le poursuivait. Alors, où il est parti? Il est parti chez Shmuel Barama, pour être en sécurité. Il s'en alla chez Shmuel et il s'établit à Nayot. Benayot, Barama. Ils étaient dans un endroit qui s'appelait Nayot. Où ça? Dans la montagne, Barama. Alors, la Gemara, elle demande dans Svahim que, ma Nayot, Barama. Quel rapport il y a entre Nayot et Rama? C'est pas le même endroit. Et les Chachamim disent, ils étaient installés sur les hauteurs, Barama. Et il s'occupait de la Nayot, ça fait référence à Naé, à la beauté, à la splendeur du monde. Alors nous disent Rachamim, Noyo Shel Olam. Nous disent Rachamim, il cherchait à établir David et Shmuel avec précision l'emplacement du temple, de ses différentes dépendances, où est-ce qu'on va placer le Misbéar, où est-ce qu'on va placer le Kodesh HaKodashim. Oui, parce que si on a un temple, il est indispensable de savoir placer les éléments du temple et les objets à leur place précise. Si on ne sait pas les placer, on ne sait pas où mettre le Echal, où mettre le Kodesh HaKodashim, où mettre le Misbéach Haitzon, etc. Alors le Misbéach, le Beit HaMikdash n'a pas un digne de Beit HaMikdash. Donc il faut établir avec précision chacun des éléments. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris la sugya, ils ont pris les livres, ils ont essayé de comprendre, savoir. Et ils sont arrivés à une certaine conclusion. Et c'est alors que Shmuel a eu la prophétie qui a confirmé ce qu'ils venaient de décider par leur étude. Alors Rashi explique que tout cela, Shmuel, alors ça s'est marqué Béhémet, tout ça s'est marqué dans le livre des chroniques, dans Divrei Hayamim. Au milieu du livre 1, au chapitre 28, il est dit, David, il a transmis à Shlomo HaMelech le plan de tout le Beit HaMikdash, du portique, des bâtisses, du temple, etc. Même le plan des objets. Et tout ça est dit, il dit, tout ça est consigné par écrit de la main d'Hachem. Comme il me l'a inspiré. Beruach HaKodesh. Alors c'est ça, exactement ça. Alors Rashi explique, Shmuel l'a commenté, expliqué, établi à partir des textes de la Torah. Et par inspiration divine, Ça a été confirmé, comme il est enseigné dans la Mishnah de Midot. Tout cela, il l'a transmis à David. Il est bien fait ici mention de deux dimensions de la Torah, celle du labeur et de l'effort pour fixer l'halakha, et celle de la prophétie, qui la corrobore, qui la confirme, soit par la Torah, soit la Torah de Tzion et la parole de Dieu qui sort de Jérusalem. C'est la même chose, c'est la complémentarité. La préparation, le temple d'en haut, et cette préparation est faite par David. La construction de Sion permet à Shlomo de réaliser le temple. C'est ça ce qui a marqué. Car il a consolidé les barres qui soutiennent les portes, les soutiens de tes portes. Berach banaïr bekirber. Tes enfants, tes fils, il a béni tes fils en temps, dans son enceinte. À l'intérieur du temple, de ses portes. Dans le Mishkan, il y avait plusieurs barres de soutien qui étaient apparentes sur un mur. Donc il y avait trois murs, mur nord. Alors dans le mur nord, il y avait plusieurs barres qui étaient apparentes, qui maintenaient les planches entre elles, qui unifiaient toutes les planches de l'intérieur, dans une épaisseur. Mais il y avait Beriach HaTichon. Le Beriach HaTichon, il pénétrait à l'intérieur de l'épaisseur des planches et il traversait tous les murs du Mishkan. C'est-à-dire, il arrivait à l'extrémité, on le mettait à l'extrémité nord-est, donc dans l'épaisseur du mur, il rentrait et, tac, il arrivait à l'extrémité du mur, il tournait, il rentrait dans le mur ouest. Au bout du mur ouest, il tournait, il remontait, il rentrait dans le mur sud. Donc il y avait en vérité un seul Beriach HaTichon, d'ailleurs dans le pasuk c'est marqué au singulier, Beriach HaTichon betoch Kerashim, Mavriach mina katze la katze. Il relie d'une extrémité à l'autre. Donc c'est ça ce qui a marqué ici. Quand les planches étaient dressées, donc comme nous avons dit, alors on faisait rentrer le Beriach HaTichon à l'intérieur des planches et ça soudait tout le système. Cette qualité particulière de lier les éléments entre eux pour les canaliser vers leur finalité, c'est celle du Yesod. Le Beriach HaTichon, c'est le Yesod, la qualité de Yosef HaTzadik. Mais lui-même ne se met pas en avant, il est au service des autres. Il est remarquable sur ce point qu'il y ait une réelle similitude entre la vie de David et celle de Yosef. En rassemblant les exilés, les enfants de Jérusalem en son sein, le tzaddik reforme la forme, le corps de la Shekhina. La Shekhina, les enfants d'Israël, sont les organes et les membres du corps, entre guillemets, de la Shekhina. Alors la bénédiction peut se développer avec une intensité encore jusqu'alors ignorée. Elle s'amplifie d'instant en instant sans limite. Les clipotes n'existent plus, il n'y a plus aucune restriction à ce que l'abondance remplisse le monde. C'est ce qui a marqué ici. Après, il dit, Assam Gevuler Shalom. Il fait régner la paix, et Assam, c'est toute ta frontière, ton territoire n'est que paix. Shalom. Shalom, c'est pas seulement paix, c'est la concorde parfaite, l'harmonie. Helev Hitim Yesbier. Il te donnera comme pour te rassasier, le Helev Hitim, la moelle du froment, le meilleur du meilleur. Rabbi Aya Baraba dit, tout celui qui voit en rêve, dans son rêve, un épi de blé, alors il peut être sûr qu'il aura la paix. Rabbi Oudah dit, un homme doit toujours faire attention à la récolte du blé qu'il a dans sa maison. Elle est la cause des disputes, comme la Gemara dit dans Baba Metzia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre, l'arbre de blé, qui est le symbole du savoir. C'est le Da'at, celui qui permet l'équilibre entre les contraires, entre les opposés, et qui les harmonise. Le psalmiste souligne la bénédiction particulière de la paix, le shalom, qui est lié à la connaissance. Le blé consommé donne le savoir et l'intelligence, le discernement et la compréhension. Nos maîtres disent que les sages multiplient et répandent la paix dans le monde. Talmid Rami Marbim Shalom Baolam. Pourquoi? Comment ça marche? Il dit parce que c'est quoi la définition du Chacham? Et Zéou Chacham Amakiret Mekomo. Le Chacham, c'est celui qui connaît sa place. Donc s'il connaît sa place, il va rester à sa place, il ne va pas vouloir empiéter dans le domaine de l'autre. Donc la paix elle va s'établir automatiquement. Il envoie ses paroles sur la terre. Sa parole vole avec une extrême rapidité. La compréhension de la Torah sera extraordinaire. La terre se remplira de savoir. Devaro, c'est la parole qui crée, la parole de Chochma. Et le mot davar, il est à distinguer du mot amar. La amira, il y a deux mots pour dire parler. Il y a ani omer et ani dover. Je parle, deux manières de parler. Dans Matan Torah, il est dit, quand omar les Beit Yaakov, ainsi tu parleras aux filles, aux femmes, Beit Yaakov, betaged l'imne Israël. Et tu diras, et tu transmettras aux enfants d'Israël. Alors, Chachamim souligne qu'aux femmes, il faut parler gentiment un certain discours, et un discours plus dur aux hommes. Et dit, mais en vérité, la question se pose, c'est le même discours qui est fait. Moshe Rabbeinu ne fait pas deux discours. Quelle différence il y a entre Amira? Amira, on dit que c'est parler gentiment, avec douceur, alors que Dibour, c'est parler avec dureté. Alors la différence, elle est là, que quand on parle, Amira, c'est une parole qui est dite, qui n'attend pas une réponse. C'est l'acceptation immédiate. Ça correspond à la Torah écrite. Le Dibour signifie que je m'adresse à toi, et le fait que je m'adresse à toi t'invite à y répondre. T'invite à intervenir. Et c'est là la difficulté. Il s'agit ici de la Torah orale. Donc, Asholiach Imrato Adéares. Admeira Yavosevaro. Au début, il dit Imrato. Torah écrite. Après, Admeira Yavosevaro. Et après, c'est sa parole qui court. Donc, dans la parole, alors c'est ça le sens du verset de Matan Torah. Il dit, quand on parle de Yaakov et Taged le ministre, il n'y a pas de parole, il y a une seule parole. La parole de la Torah, écrite, contient en elle la Torah orale. Alors quand Akash Bukhou, il envoie ses paroles sur la terre, la parole de la Torah écrite, elle se décline pour ceux qui savent l'entendre, qui sont à qui ça s'adresse. Elle se décline en Torah orale. Et là, nous devons intervenir. C'est notre implication, c'est ça le sens. Il a parlé le même discours aux uns, il a dit cela, et aux autres, il a dit cela. Non, ça veut dire qu'il a dit un seul discours qui contient les deux. Alors, pour les femmes, en l'occurrence, n'ont entendu que ce qui les concerne, donc elles ont accepté, elles ont reçu. Mais l'autre partie qui nécessite l'intervention et la discussion, le dibourg, alors ça s'est adressé à ceux qui l'ont entendu, à qui ça s'adresse. Anoten shelek katsamer. Il répond la neige sur kefor kefer efazer. Donc, Akadosh Baruch Hu répond la neige et les flocons comme de la laine. Anoten shelek katsamer. Kefor, Kefer, Yefazer. Et il disperse le givre comme de la cendre. Après, il dit, Mashtir Karho Kifitim, Livne Karato Mi Amod. Il lance, Mashlir, il jette Karho, les glaçons, ces glaçons, Kifitim, comme de petits morceaux. Livne Karato Mi Amod, qui peut se tenir devant la froideur, le froid terrible? Ishlar Devaro Veyamsem, Yashev Ruho Izelumaim. Il envoie ses paroles et il les fait fondre. Yashev Ruho, il fait souffler son souffle. Izelumaim. Et c'est glaçant, toute cette neige va donner de l'eau, et l'eau, elle va se répandre. Alors, a priori, quel est le sens de ces versets? Alors, la neige, le givre, les glaçons, le vent, les eaux, sont la nature, les actions de la nature, alors que la laine, la cendre sont les actions de l'homme. Les lois de la nature, comme la neige, le gel, le vent, etc., ont une raison rationnelle et scientifique qui est liée au fait des mitzvot de la Torah. Pourtant, la Torah et la science étant sur deux parallèles qui ne se rencontrent jamais. On ne voit pas le lien qu'il peut y avoir entre une loi physique et la mitzvah qui le correspond. Alors là, il y a un secret et un enseignement profond qu'il convient de répéter, de rabâcher sans cesse, surtout dans notre génération. La conduite du monde se fait sur deux plans, le plan naturel et le plan surnaturel. La nature, c'est la conduite naturelle, c'est le Shem Elohim, c'est la création du monde. Bereshit bara Elohim, c'est les règles de la nature. Comme disent les maîtres, et ça contient dans cette conduite les sciences, toutes les sciences qui concernent ce qu'on appelle Chochma Chitzonit. C'est la physique, la chimie, la biologie, etc. Toutes les découvertes scientifiques. Et en parallèle, il y a la Chochmat Torah. Donc la Torah, que ce soit le texte même de la Torah, les paroles, la Torah orale, tous les enseignements de nos maîtres, dans le Talmud, dans les Midrashim, et dans le Zohar, dans tout ça, jamais ils ne parleront des sciences. On a l'impression qu'ils parlent des sciences, ça va être, c'est une erreur. Ils ne parlent pas des sciences, ils parlent de la raison des lois de la science. La Torah et tous ses enseignements, Torah orale des maîtres, des chachamim, sont de cet ordre-là, l'ordre de la Torah profonde. Même si parfois il nous semble qu'il parle des sciences, il n'en est rien. Nos maîtres ne parlent que de la raison des lois physiques. Le chacham dit, le mot, le chacham, c'est Shlomo HaMelech, dans Kohelet, il débute Kohelet, tout est vanité. Hevel, ce mot Hevel, il s'écrit He, Bet, Lamed. Ce mot a pour valeur numérique 37. C'est une des compositions du nom de quatre lettres, Yod, Ke, Vav, Ke. Il s'écrit dans une des compositions qui est valeur numérique de 63, le Shem Sag, 63. Il s'écrit Yod, Yod s'écrit toujours Yod, Vav, Dalet, ça vaut 20. Le He, c'est He, Yod, ça vaut 15. Le Vav, c'est Vav, Aleph, Vav, ça vaut 13. Et le He, c'est He, Yod, ça vaut 15. Donc la valeur numérique est 63, mais quand on prend les lettres intérieures, on trouve Hevel, 37. Le monde physique est créé par ce nom-là. Les lettres, parce que ce nom-là, il correspond à la Bina, à la matrice où le monde va se développer. Les lettres extérieures, le monde physique est créé par ce nom. Des lettres extérieures surgit la spiritualité. C'est la Torah. Les lettres Yod, Ke, Vav, Ke, c'est la Torah. Et des lettres intérieures, la matérialité. C'est le lien qu'il y a entre les lois physiques et la Torah. Cependant, lors de la brisure des tables de la loi, la brisure, il y a plusieurs brisures, ce qu'on appelle la Shvira, initial, ce qu'en français on appelle ça Shvirat HaKelim, la brisure des vases, ou bien qui s'est reproduite lors de la brisure des tables de la loi, les deux parties se sont séparées. C'est pour cette raison qu'il nous semble que les lois scientifiques sont une vérité absolue. De par le calcul et l'expérimentation, c'est prouvé, voilà, c'est une preuve, voilà, c'est la science, c'est une vérité absolue, il semble. Mais en réalité, elles ne sont qu'une vérité temporelle, qui se vérifie le temps que dure la séparation. Elles ne sont, quand la terre se remplira de la vraie connaissance, Umal A, Ares, De'a et Hashem, la terre se remplit, alors on comprendra comment toutes ces lois de vérité, entre guillemets, sont dépendantes de leurs sources, qui sont les lettres de la Torah et des Mitzvot. Cette connaissance est réservée uniquement à Israël. C'est la conduite surnaturelle du Shem Havaya Baruch Hu. Une, elle est la conduite du Shem Elohim, et l'autre est la conduite du Shem Havaya. Ces deux, les sciences sont sur une droite qui ne rencontrera jamais la Torah dans ce monde. Et le parallèle, il y a une ligne parallèle qui est la conduite surnaturelle du monde, qui est celle de les sciences de la Torah. Il est regrettable que l'on cherche souvent à justifier ou à prouver la véracité de la Torah ou des enseignements de nos maîtres, et les justifier et les prouver par des découvertes scientifiques. C'est le sens du verset. Il n'a pas dévoilé ses lois aux autres peuples. Elles restent inconnues d'eux. C'est ce qu'il dit ici. Ma guide, le loa asachen l'echol goy. Il n'a pas dévoilé ça aux autres peuples. Il a révélé ses paroles à Yaakov. Ma guide de varev Yaakov. Ma guide de varev Yaakov. C'est ce qu'on vient de dire, la Torah. Hoka ou mishpata ablé Israël. Et les lois fondamentales. Et les lois, ces statuts et les décrets à Israël. Le Asachen et Cholgoy. Il n'a pas dévoilé cela aux autres peuples. Ou Mishpatim Baledaum, ils ne le connaissent pas. Elles demeurent pour ces lois-là, ces règles, demeurent pour les nations inconnues. Alléluia! De ça, il faut louer l'Éternel. Donc ici, si je loue ça, de ça, je loue la Kadosh Baruch Hu. Alors je ne vais pas chercher à utiliser les découvertes scientifiques pour dire que la Torah, elle est vraie. C'est une aberration. Il ne peut s'agir simplement des règles pour l'accomplissement des mitzvot, quand on dit « hukav » ou « mishpatav ». Ici, comme nous l'avons dit, il s'agit des enseignements et du savoir beaucoup plus profond. Ce sont les secrets, les « haomek haTorah » qui sont révélés à Israël, en vérité, qu'à la fin des temps. Le verset, ce passage qui dit « les paroles révélées à Yaakov. Puis il y a les décrets et les statuts, Hukar Mishpata, qui sont révélés à Israël. Quand l'âme Israël est à un niveau relativement bas, il est appelé Yaakov. Et quand il est à un niveau extrêmement haut, il est appelé Israël. Alors, c'est le temps où la science de la Torah n'est pas totalement accessible. C'est le temps où Yaakov, il est Yaakov. Cependant, la parole révélée contient la compréhension à venir. Elle contient, même la Torah que nous avons, elle contient en elle l'ouverture, la lumière qui va nous dévoiler comment les lois de la nature, les règles scientifiques sont liées à chaque lettre de la Torah. Chacune a sa lettre, chacune a sa mitzvah, chacune a son enseignement. Comment ça se fera, nous dit le Rambam dans Adir Bamaran, ça c'est réservé à la fin des temps. Cependant, la parole révélée contient la compréhension à venir, celle des statuts, hokim, des lois, qui ne sont pas hok, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de la logique, dans le cadre de la logique. De ce que nous pouvons comprendre, les lois de justice, mishpat, sont les lois qui doivent s'appliquer pour la vie en société, les lois logiques. Ce sont les règles logiques que même les nations vont établir. Ici, ce sont les lois de la nature qui sont appelées Hok. Elles seront comprises et accessibles par Israël comme des lois rationnelles. Quand? À la fin des temps. Comme le dit le Hassid Lutzato dans Adir Bamarom à la page 459. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.